tous les podcasts D3-8, radiogrenouille.com. Bonjour et bienvenue dans le premier numéro de l'émission Métamorphose. Alors c'est quoi cette nouvelle émission? De quoi est-ce qu'on va vous parler? On va parler de plein de choses, de plein de belles choses qui inspirent et qui aspirent. De toutes ces belles énergies qui fourmillent sur le territoire et qui se mobilisent pour que le monde soit agréable à vivre. On va parler d'associations, de collectifs, de mouvements. Il y aura des portraits de femmes et d'hommes qui se retroussent les manches au quotidien pour que le monde plutôt morose se métamorphose. On va parler d'éducation, de citoyenneté, d'agriculture, de culture, d'économie solidaire, d'économie collaborative, d'énergie, de voisinage, de jardinage et plein d'autres choses dans lesquelles on peut s'investir pour améliorer le quotidien. Il y aura aussi une petite chronique ressources pour aller plus loin pour ceux qui auront envie de creuser les sujets qu'on va aborder. Et puis, il y aura des témoignages, des invités. Et avant de vous présenter nos invités du jour, je vais laisser la parole à mon coéquipier Pascal Henquin pour qu'il vous parle un peu de lui.
Merci Alima. Je suis donc Pascal Henquin, plutôt un homme d'image car photographe et réalisateur, et en tant que cofondateur d'un média citoyen qui s'appelle Focus 21 et qui est basé à Marseille depuis 6 ans. C'est la première fois que je co-anime en fait une émission de radio et avec moi aujourd'hui donc une complice de plusieurs années dans la vie associative et militante, Alima El Bajnouni, à qui je laisse la parole
pour se présenter. Votre serviteur, donc Alima El Bajnouni, je coordonne au sein de l'association La Plateforme un pôle qui s'appelle le Laboratoire Citoyen et qui a pour vocation de relier justement toutes ces initiatives dont on veut vous parler et de les faire converger autant que possible. Et avec nous, nous avons aussi Emmanuel Chouin. Emmanuel Chouin.
Bonjour à tous, moi c'est Emmanuel Chouin, électron libre dans le monde associatif marseillais. On se retrouvera à chaque émission de Métamorphose pour une chronique inspirée par mes lectures et mes passions. Une belle définition proposée par la chroniqueuse performeuse Pamina de Poulon, qui présente son spectacle Fire of Emotions au Festival Actoral. Un chroniqueur est un spécialiste en presque rien sur presque tout, qui prend la parole en son nom, qui donne son point de vue, sans pour autant être expert de quoi que ce soit. À tout à l'heure.
Et autour de la table, nous avons Christine Delepierre et Loïc Plazen de l'Équitable Café. Nous avons avec nous Michael Granier de l'association Voisins Citoyens Méditerranée, Bruno Lagnier qui est président de l'association Obéa Balex et qui est membre du Mouvement pour une économie solidaire, et Philippe Oswald qui est coordinateur de l'association La Plateforme. Donc nos invités se présenteront chacun leur tour, mais avant d'échanger avec nos invités, il y a quand même un petit point à éclaircir. C'est quoi la métamorphose? Et pour en parler, je fais appel à Edgar Morin, enfin à son livre « La Voix », publié aux éditions Fayard en 2011.
Alors, mon cher Edgar, c'est quoi la métamorphose?
Nous en voyons d'innombrables exemples dans le règne animal, notamment chez les insectes. Une chenille s'enferme dans une chrysalide, elle entame alors un processus qui est à la fois d'autodestruction et d'autoreconstruction, en une organisation et une forme différentes. Quand la chrysalide se déchire, il s'est formé un papillon qui, tout en demeurant le même être, est devenu un autre.
Nous allons donc parler de papillons?
Eh ben oui, peut-être qu'un jour on parlera de papillons. En tout cas, ce que nous raconte Edgar Morin à travers son livre, c'est qu'a priori on est mal barré. Entre l'épuisement des ressources naturelles, le réchauffement climatique, l'inégalité dans la répartition des richesses qui engendre forcément des conflits planétaires, la montée des extrémismes et des retranchements identitaires, le probable, c'est qu'on va arriver à une catastrophe, à un point de non-retour. Le probable, c'est la désintégration, nous dit-il. Mais l'improbable, mais possible, c'est la métamorphose. Et tout est dans ce possible. La métamorphose, c'est donc qu'en parallèlement à l'autodestruction de l'ancien monde, ce vers quoi on fonce apparemment, se met en place un processus d'auto-reconstruction d'un monde aux formes différentes. Et ce processus est déjà lancé partout dans le monde, en France, ici, près de chez nous. Ce sont toutes ces expérimentations, ces initiatives, ces mouvements qui tendent vers d'autres formes d'organisation de la société, moins hiérarchiques, plus collaboratives, plus ouvertes, plus cohérentes avec le monde fini dans lequel on vit. C'est dans la métamorphose que se régénéreraient les capacités créatrices, dit Morin.
Notre société il y a des îlots, il y a des oasis de résistance et d'initiative pour une nouvelle civilisation. Et quand on voit la diversité de cette stand, quand on voit qu'il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a l'agriculture, il y a l'écologie, il y a un peu tous les domaines. Alors on se dit, mais alors, c'est que tout doit changer. Et ce changement, nous n'en sommes qu'au début. La première chose est de nous associer, parce que jusqu'à présent, toutes ces initiatives sont dispersées. Voici que grâce à Alternativa, elles sont rassemblées ici. Il s'agit maintenant de nous unir. Et après, une fois qu'on est unis, il faudra penser, parce qu'il n'y a pas de pensée dans les milieux politiques qui nous gouvernent. Il faudra une pensée qui nous ouvre la voie. Et il faut faire, je crois, de ces journées ici l'acte de naissance d'une nouvelle civilisation.
Alors, ce son a été enregistré ce week-end lors de l'arrivée du Tour Alternativa à Paris, où il y avait plus de 60 000 participants qui sont venus pendant ces deux jours. Alors, qu'est-ce que c'est Alternativa? C'est un mouvement en fait, qui a été lancé par des Basques depuis Bayonne en 2013, qui a organisé un premier village des Alternatives à Bayonne et qui avait réuni déjà 12 000 personnes. Et ensuite, ils ont lancé cette dynamique à travers toute la France en disant « On a une méthodologie d'organisation de villages, emparez-vous-en et... » Et donc, plein de collectifs dans toute la France ont utilisé cette méthodologie pour organiser eux-mêmes un village, pour mettre en avant toutes les alternatives face au changement climatique. Et en parallèle de cette dynamique-là, ils ont aussi lancé un projet de Tour de France de 5600 km en triplette et en quadruplette, qu'ils ont démarré au mois de juin depuis Bayonne, et qu'ils ont fini justement ce week-end du 26 septembre à Paris. Et à cette occasion, l'un des parrains d'Alternativa, c'était Edgar Morin. Il y avait Patrick Vivray, il y avait Suzanne Georges, enfin d'autres personnalités vraiment importantes et des anciens. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces personnes qui ont fait ce tour de France, c'était des jeunes de 20-30 ans, mais tous les villages qui étaient organisés autour, c'était toute la société civile. Et donc, ce qu'on entend là avec Edgar Morin, c'est vraiment un appel, lui qui est un ancien résistant, à changer, comme il le dit. Il ne dit pas comme Naomi Klein, ça doit changer, il dit tout doit changer en fait, vraiment c'est important, et ce qui est important c'est vraiment de l'union qu'il appelle des alternatives, ce qui est toujours très difficile parce qu'on a tous nos différences, mais je pense qu'aujourd'hui ce qui a été organisé à Marseille et ce qui va continuer d'être organisé à Marseille et partout en France et partout dans le monde, c'est cet appel à l'union des alternatives. Voilà. Alors maintenant j'aimerais parler un petit peu de ce qui nous réunit aussi aujourd'hui, parce que c'est vraiment comment faire mieux connaître ces alternatives, comment mettre en place des outils, comment mettre en place des méthodologies pour qu'on travaille mieux ensemble. Donc maintenant, je vais peut-être laisser se présenter un petit peu les différents invités, et surtout, comme on a choisi pour ce premier numéro d'inviter des associations ou des personnes qui sont en contact quotidien d'un grand nombre d'initiatives, soit parce qu'elles leur offrent une visibilité, soit parce qu'elles les aident à se structurer et à s'organiser.
Et donc, on va commencer par l'équitable café.
Voilà, donc merci à Loïc et merci à Christine Delpierre d'être venues. Alors vous êtes l'une plutôt administratrice.
Oui, bonjour. Donc effectivement, je suis au conseil d'administration.
Et Loïc, ancien salarié, en charge de la programmation, merci d'être venu. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette association, nous faire un portrait en quelques chiffres, et puis depuis quand elle existe, et nous parler aussi de comment elle fonctionne au niveau de ses militants, de ses bénévoles?
Alors, l'association a été créée en 2003, donc elle a 12 ans. Et elle a pris ses quartiers Cours Julien en 2009 parce que l'association s'appelle Envisage, en réalité on parle beaucoup de l'Équitable Café, qui est très connue maintenant, mais en fait elle est gérée par une association qui s'appelle Envisage, et qui est représentée par un escargot. On peut peut-être parler de l'escargot maintenant, non?
Pourquoi un escargot? Surtout cet escargot, il a une coquille un peu particulière.
Alors, c'est, oui, en fait, sa coquille, c'est la planète. Il porte la planète sur son dos en référence à l'environnement et à la nature, et vis-à-vis des technologies qui vont toujours beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus abstraite. Donc, il protège la nature, et il tente de protéger la planète, et le slogan, c'est un petit peu tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin.
Et alors, en quoi va se métamorphoser cet escargot? En fait, on il s'est métamorphosé, au début, c'était trois personnes. Et aujourd'hui, c'est quoi l'association Envisage, l'Équitable
Café? C'est un très gros collectif, avec des réseaux. C'est 4 ou 5 000 adhérents, je crois. Une cinquantaine de bénévoles. Il doit y avoir 12 membres du conseil d'administration, 4 salariés. Mais notre chemin et nos valeurs tendent vers l'horizontalité. Et en fait, on parle de bénévoles, de salariés, de conseil d'administration. Mais en réalité, on cherche à ce que chaque personne trouve sa place dans son domaine, et qu'il n'y ait pas de hiérarchie. Et ça, c'est très important pour nous. Ça fait partie des premières valeurs de l'association. Alors, pour revenir sur l'association, au départ, en 2003, elle a donc été créée effectivement par trois lycéens qui sortaient du lycée agricole. Et au départ, il n'y avait pas de lieu, il n'y avait pas de... On faisait des buffets itinérants. Le plus important, c'était de sensibiliser les citoyens à une consommation responsable. Donc on crée des buffets itinérants, et pour promouvoir aussi le commerce équitable.
Et aujourd'hui, en fait, c'est devenu une structure, tu disais, avec plus de entre 4 et 5 000 adhérents. Mais ce n'est pas qu'un café. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce café? Quelle est sa programmation? Comment ça s'organise? Est-ce que tu peux me parler un petit peu et justement de comment cette programmation favorise les échanges entre les collectifs du quartier, et puis comment ils favorisent l'information sur les alternatives?
Alors, les valeurs d'Envisage et de l'Équitable Café, c'est effectivement les échanges et les alternatives, promouvoir l'information solidaire. Et effectivement, c'est un lieu où les gens se rencontrent pour transformer un petit peu la société dans les alternatives. Alors après, les réseaux, il y a beaucoup, je sais pas, peut-être que Loïc pourrait parler de tous les réseaux qui existent, mais sinon la programmation aussi.
Oui, il y a sur les réseaux, on fait partie d'énormément de réseaux qui vont de réseaux de structures similaires, donc de cafés, on a pas mal de cafés à s'ouvrir en France, donc des cafés avec des produits locaux, équitables. Après, des réseaux à Marseille d'économie sociale et solidaire, des réseaux de lieux alternatifs dans leur façon de faire, des lieux d'expérimentation. Beaucoup de lieux qui cherchent pas à s'appuyer sur ce qui existe, mais qui cherchent à tenter des choses, à faire pour justement créer cette métamorphose. Après, au sein de l'Équitable Café, s'il faut parler de la programmation, je comparais ça à une salle de spectacle, une scène où les artistes, ça serait les créateurs, ces gens qui créent des initiatives, qui essayent des choses pour aller plus loin, pour faire changer ce monde. Et nous, à l'Équitable Café, en étant un café, en étant un lieu ouvert, en cherchant quand même à pas faire de l'entre-soi, c'est leur donner la parole, leur donner une scène et faire le lien entre toutes ces personnes individuellement qui veulent s'engager et qui pour ça ont besoin d'un point de rencontre avec toutes ces formes.
Oui, parce que c'est vraiment l'objet de l'Équitable Café, de rendre visibles toutes ces initiatives et de leur donner les moyens de la création et de l'expérimentation, hein, si je me souviens bien, dans l'objet vraiment de l'association.
Leur donner les moyens à travers cette rencontre. Nous, on est d'abord un lieu et on a envie de promouvoir comme un média, en fait, simplement. à toutes ces initiatives.
Donc est-ce ça que... veut dire ouais. qu'en fait, les associations, moi j'arrive sur Marseille et j'ai un super projet que j'aimerais valoriser, mettre en avant pour proposer au public, que je peux venir vous voir à l'Équitable Café et vous dire
Bienvenue chez nous. Et ça correspond bien sûr à nos valeurs, à des valeurs humanistes.
Voilà, on permet aux gens, aux associations, aux gens, aux individus de se rencontrer et de créer ensemble beaucoup plus loin.
Et Loïc, est-ce que tu pourrais nous parler, par exemple, je crois qu'il y a la troisième édition cette année du festival Do It Yourself. Qu'est-ce que c'est le Do It Yourself et qu'est-ce qu'on va y trouver en fait?
Alors Do It Yourself, pour arrêter les anglicismes, c'est fais-le toi-même. Alors on va trouver simplement des ateliers et l'idée c'est de dépasser un peu cette peur de faire soi, d'arrêter de tout mettre dans des cases et de tout professionnaliser et de dire qu'on, en créant de l'échange avec des personnes qui savent faire, on va essayer d'acquérir une sorte de pouvoir d'agir. Donc c'est un peu le décliner ce qui se passe à travers des mouvements comme Alternatiba ou des rencontres avec des associations qui développent le pouvoir d'agir peut-être plus politique. Là, on va rentrer dans un pouvoir d'agir manuel à travers la rencontre avec des personnes qui vont échanger sur ce qu'ils savent faire.
Mais qu'est-ce qu'on pourra y faire alors?
Donc, on pourra y faire, on pourra venir réparer ses meubles, apprendre à installer un circuit électrique chez soi, on pourra apprendre à faire du savon, réparer ses chiottes, tout plein de petites choses où finalement il faut un petit déclic pour se dire qu'on peut le faire. Donc ça, et puis c'est, là, il faut le dire, c'est pas que à l'Équitable Café, on est plusieurs à avoir réfléchi ça, dont Darla Mifa, et puis Darla Mifa, le Morozov, et puis pas mal de commerçants aussi qui ont envie de partager ce qu'ils savent faire, donc qui sont pas dans le juste je vends, mais j'ai envie de partager un savoir-faire.
Darla Mifa qui, au passage, est un espace d'épanouissement populaire.
Tout à fait, qui sont nos voisins du haut de la rue d'Aubagne.
Ils sont même nos partenaires très proches. On mutualise beaucoup de choses maintenant ensemble, notamment le réseau bénévole.
Et donc ce festival va permettre, vous pensez que ça va déclencher du passage à l'acte de nombreuses personnes ou
On pense, on espère toujours, et ça a pas mal marché ces deux premières éditions. Cette année on vise un peu plus haut, on est un peu mieux organisé, on commence à connaître pas mal de gens qui sont du coup... qui se sont manifestés après en disant « mais nous, on peut vous prouver ça ». Et puis là, cette année, ça va être plus dense, il va y avoir plus d'ateliers, plus de lieux, et j'espère, oui, que ça va marcher. Et puis, ces savoir-faire simples, ça permet aussi d'amener des gens dans nos lieux qui ont peut-être un peu peur de la politique, un peu peur de se positionner ou d'entrer dans ces lieux qui sont assez catégorisés. Et peut-être à travers un atelier de savoir-faire qui atteint beaucoup plus de monde, ben, ça va permettre de faire un pas un peu vers ces démarches.
Donc c'est pas du blabla, c'est de l'action.
Voilà, ça fait du bien aussi.
Et est-ce que les jardinières qu'on voit dans le quartier, ça vient de là un petit peu
Alors ça vient pas de ce festival, mais ça vient de la même façon de penser. Si on veut de la végétalisation, si on veut des arbres dans nos villes, si on veut des plantes, ben, à un moment, si personne le fait, on va le faire nous-mêmes.
D'accord, donc cette année on va faire des jouets d'enfants, pas des jeux d'enfants, des jeux d'enfants pour sur le tout le quartier parce que ça manque, on va planter des arbres, on va planter des graines, non c'est, qu'est-ce qui est prévu
Cette année pas encore les jeux d'enfants, mais à moins que je n'en ai pas entendu parler, mais des graines, oui on va planter des graines en octobre, sur deux semaines on va relancer ce mouvement qu'on a appelé Taupe il y a 3 ans, donc on arrive à la 3e édition aussi de Taupe. Qui, si je me souviens bien, thématique agriculture urbaine et périurbaine. Voilà, donc ça va se passer en octobre et on va relancer des échanges de graines, des discussions avec des fermes qui agissent dans les villes et tout un tas d'acteurs qui ont des projets de végétalisation dans nos grandes villes de France qui manquent beaucoup de verdure.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous reparler aussi du coup de main qui a été fait ou de la mobilisation qui a été faite des 60 bénévoles de l'Équitable à l'occasion du passage d'Alternatiba? Est-ce que ça a été pour vous une grosse action et puis pourquoi ça a été un engagement important pour vous et tous les liens que ça a permis de créer?
Alors oui, ça a créé énormément de liens et puis ça nous a semblé évident d'y participer parce que c'est ce qu'on fait à petite échelle. On essaye de mettre en avant donc, toutes ces alternatives et Alternatiba est arrivé. Bah, nous, on vous propose un moment mais où on va rassembler tout le monde sur l'espace public. Donc bien sûr, ça nous a semblé évident d'y participer. Ça s'est passé avec ses boires et ses déboires, et justement à Marseille. Et du coup, ça nous a fait plaisir d'être là et d'avoir un savoir-faire, en tout cas, et une force, de la force vive humaine, pour pouvoir soutenir cette initiative qui nous semblait évidemment importante.
Donc ça va dans la même dynamique de réappropriation de l'espace public, de renforcement de la capacité, ce qu'on appelle l'empowerment à l'anglaise, mais
le pouvoir d'agir.
Je vous remercie tous les deux, en fait, d'avoir participé.
Merci beaucoup, Pascal, Alima.
Et donc, on enchaîne avec un morceau composé par Gary Gray, ou spécialement pour Alternativa Aioli.
Changer concrètement les choses. Nous pouvons changer concrètement les choses. Au fond, mais où va la vie? Alternativa Aioli. Nous pouvons changer concrètement les choses. Nous pouvons tous cultiver nos jardins. Nous pouvons tous harmoniser nos dessins. Car qu'avons-nous de plus beau que les forêts, la terre, terre, mer et l'eau? Nous pouvons changer concrètement les choses. C'est à nous de décider.
Et oui, nous pouvons changer concrètement les choses. Merci Gary Gray. Et nous sommes donc en présence de Michaël Granier de l'association Voisins Citoyens Méditerranée. Bonjour et bienvenue Michaël.
Bonjour.
Est-ce que du coup tu peux nous présenter Voisins Citoyens Méditerranée? Quel est son objet? Qu'est-ce que vous faites?
Alors, Voisins et Citoyens en Méditerranée, c'est une association qui a pour but de soutenir l'émergence et le développement d'initiatives de solidarité dans le champ de la lutte contre la pauvreté, et également de participer au débat public et d'amener aussi des éléments auprès des décideurs politiques sur ces questions-là. C'est une association qui a été créée en 1995 sur le constat qu'on était déjà en train de vivre une mutation globale et profonde de la société, et qu'il fallait que cette mutation soit pensée collectivement. Et il y avait un autre constat qui était celui que face à la pauvreté, à des situations de pauvreté de plus en plus étendues et de plus en plus durables, il y avait des initiatives de solidarité qui se créaient, qui sont des organisations collectives plus ou moins formalisées, dans lesquelles des personnes s'organisent entre elles pour agir ensemble et améliorer un petit peu leurs conditions de vie au quotidien.
Et donc, vous les rassemblez, ces initiatives, vous les accompagnez
Alors, l'idée, voilà, c'est l'objectif de VCM, c'est de soutenir le développement, l'émergence et le développement de ces initiatives de solidarité. Donc, ça passe par la mise en réseau des initiatives entre elles. Ça passe également par la valorisation de leur action, donc en amenant un petit peu ce qu'elles font dans le débat public et auprès des décideurs politiques. Et puis il y a également un troisième volet qui est la réflexion éthique sur les questions qui sont soulevées par leur action. C'est des initiatives dans lesquelles, qui sont d'une part des manières de vivre la crise face aux situations de pauvreté, mais qui sont également des espaces d'innovation dans lesquels s'inventent de nouvelles pratiques, de nouvelles relations entre les personnes. Et c'est, voilà, ça peut soulever un certain nombre de questions éthiques et VCM a aussi une réflexion là-dessus.
D'accord. Et du coup, alors venons-en, puisque tu cites ces nouvelles pratiques et ces innovations, qu'est-ce que c'est, est-ce que tu peux nous citer ces types de... comment est-ce que ça manifeste concrètement ces innovations, ces nouvelles pratiques?
Alors, par exemple, il y a beaucoup de... on travaille en ce moment sur notamment la question de la citoyenneté, c'est-à-dire... ces nouvelles relations et ces nouveaux rapports humains qui sont en train de s'inventer dans ces initiatives de solidarité, ça peut être par exemple revoir la place des personnes au sein des associations, c'est-à-dire on n'a pas forcément toujours l'habitude dans certains pans du travail social de donner une place particulièrement importante aux usagers, entre guillemets, aux personnes qui sont les premières concernées par les situations de pauvreté. Et les pratiques qu'on peut observer, les nouvelles pratiques qu'on peut observer dans ce domaine-là, dans le champ de la citoyenneté active, c'est par exemple redonner une place à ces personnes-là dans les associations. On a des usagers des associations qui font partie des conseils d'administration. On a une manière... des manières différentes d'accueillir les personnes et
donc
de les faire participer,
d'associer les publics
à la vie des associations. Et aux projets qui s'y créent. Une manière aussi de reconsidérer le statut des personnes. Souvent dans les associations avec lesquelles on travaille, le terme de bénéficiaire ne plaît pas tellement et on est plus sur une démarche active où les personnes passent du statut de bénéficiaire au statut de bénévole. C'est-à-dire que non seulement, certes, ils bénéficient de quelque chose, peut-être, au sein de l'association, dans le sens où il y a un service qui va être apporté, qui va leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie, mais en même temps, elles sont bénévoles, et dans le sens où elles participent, elles apportent quelque chose, elles ont un exercice collectif et actif de la citoyenneté.
Oui, il y a pas mal de débats sur ces notions, donc aussi notamment de la notion aussi d'usager. Alors on dit oui, d'usager, c'est tous des débats sur les notions de comment est-ce que quel est le bon terme pour vraiment qui colle à cette envie d'associer vraiment les publics à l'organisation, le fonctionnement des associations. Effectivement. Et j'ai vu donc dans un article paru dans le Midi Libre au sujet du collectif
L'Escarcelle,
oui, dont tu vas nous parler. L'Escarcelle qui se définit comme un laboratoire pour des pratiques nouvelles et une citoyenneté active et partagée. Est-ce que du coup tu peux justement nous expliquer ce que c'est que l'Escarcelle?
Oui, alors en bref, l'Escarcelle c'est un collectif d'associations qui est né justement de la réflexion interassociative dans le réseau d'associations de voisins et citoyens en Méditerranée. L'Escarcelle c'est un collectif qui a pour but de travailler sur le développement de l'entraide et de la solidarité entre associations. Donc là, on a une quinzaine d'associations qui font partie de ce collectif et qui sont engagées dans une démarche d'échange. Alors, ça peut être de l'échange de moyens, de la mise à disposition de matériel, etc. Ça peut être de l'échange de compétences. Et en tout cas, c'est un espace d'échange, l'Escarcelle, d'échange sur les pratiques des différentes associations. C'est-à-dire, quand on parle de laboratoire pour des pratiques nouvelles et une citoyenneté active, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, on s'est rendu compte que dans ces associations, il était en train de s'inventer des nouvelles manières de faire. Et donc, l'objectif que s'est donné récemment l'Escarcelle, c'est de permettre aux associations de prendre du recul, de faire un pas de côté par rapport à leurs pratiques quotidiennes et de pouvoir analyser ensemble et mieux comprendre leur action et leur nouvelles pratiques.
Ok, merci beaucoup Michael. Du coup, juste une petite info supplémentaire, si on veut avoir des informations sur VCM, donc il y a un site internet.
Oui, alors il y a un site internet qui est vcm.1901.org. Et voilà, sinon nos bureaux sont basés à Marseille et vous trouverez tous les contacts nécessaires pour nous rencontrer sur le site.
Merci beaucoup Michael.
Open your mind, go drop you back, see the sky, open your eyes.
Finally the mimities get out of the case, can't run into a space, water out of my face. Music based shot in the way religion, we gotta make the way from Marseille to LA. Brings the tunes, brings the groove and all the vibes. We make it on the corner and the streets collapse. So black to white and kick to snare, it's blazing on my mind with the atmosphere. I must die in here, we must split for real. The mimics go down when the sound is weak, but never gotta risk our feeling about it. When we wanna rise, just open the light. Never try to stop us when we want to grab the mic. The mimics will fight, then commit homicide. Got a stone in my back when the mimics goes out.
It's like a riot all the time when the mimics go loud.
And if you miss the point, you might have another test and stick it in your mind as a masterpiece.
Go grab you by, see the sky, open your mind. Open your mind, go drop you back, see the sky, open your
Et voilà, c'était le morceau Go du groupe marseillais de Mimétistes. Et maintenant, nous sommes avec Bruno Lanier de l'association Béabalex et du Mouvement pour l'économie solidaire.
Alors bonjour Bruno.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous. Et alors tout le monde sait ce que veut dire le mot Béaba. Hein, le Béaba, c'est l'essentiel pour s'en sortir, le juste nécessaire qu'il faut connaître. Et l'ex, c'est le terme latin pour dire la loi. Celle qui fait société. Alors pourrais-tu nous parler, Bruno, de l'objet et l'action que mène l'association Béabalex et qu'est-ce qu'elle apporte à ses adhérents ?
Oui, je crois que Béabalex est né de l'idée qu'on ne devait pas subir dans la société le droit. De la même façon qu'on n'a pas à subir l'économie, on n'a pas à subir le droit. Le droit, c'est quelque chose de fondamental puisque c'est la possibilité qui nous est donnée de nous organiser, de nous fixer des règles entre citoyens pour agir collectivement, pour développer le vivre ensemble. Et donc le droit, c'est pas quelque chose qui s'impose à nous, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie en société, de notre manière de nous organiser collectivement. Et donc Béabalex, au départ, c'est vraiment ça. L'idée que de redonner la possibilité aux citoyens de s'emparer de cette possibilité, de cet outil pour reposer les bases du vivre ensemble. Et donc dans la manière de le mettre en acte, Béabalex cherche à la fois à promouvoir cette citoyenneté juridique et en même temps à soutenir et à accompagner ceux qui se mettent dans ces pratiques-là, c'est-à-dire organisent des réponses collectives à des besoins individuels ou collectifs. Et donc de les accompagner dans toute leur tout ce que ça pose de questions en termes d'organisation, par exemple créer les statuts d'une association, jusqu'au problème que ça pose de confrontation à la règle, je sais pas, par exemple le statut juridique d'une AMAP. C'est d'un point de vue fiscal, est-ce que ça doit être fiscalisé ou pas? Est-ce qu'on a notre mot à dire, nous, citoyens, sur ça? Ou est-ce qu'on laisse des experts fiscalistes décider du cadre de ça? Donc voilà, donc Béabalec, c'est cette idée-là. Et donc, c'est une situation un peu particulière, parce que le droit, c'est quand même quelque chose qui est très réglementé en France. Mmh. Et donc, il ne s'agit pas de venir concurrencer un ordre bien établi.
Ah, parce que vous n'êtes pas notaire, avocat.
Voilà. Enfin, même s'il y a des avocats au sein de Béabalec, ils n'agissent pas en tant qu'avocats. L'association, c'est vraiment accompagner une appropriation des questions de droit. Donc c'est vraiment, c'est pas du conseil, c'est vraiment faire avec, quoi. Mm-hmm. Et donc
il y a tout un pan aussi, je crois, de formation, d'accompagnement.
Exactement. Voilà.
Régulièrement, en fait, à l'Équitable d'ailleurs, qui est à côté, il y a des formations pour apprendre quel type de points de la loi qui sont mis en avant.
Oui. Oh oui, que ce soit sur, par exemple, toute organisation qui commence à se structurer et embauche des salariés va être confrontée au fait qu'elle devient employeuse. Il y a un droit des employeurs, il va falloir le respecter. Donc comment accompagner les gens à se saisir de ces enjeux-là, à ne pas passer à côté, à aller chercher l'expertise dont ils ont besoin, s'ils en ont besoin, etc. Donc ça peut se traduire par des cafés-projets, ça peut se traduire par de la formation, ça peut se traduire aussi par de l'accompagnement individuel ou collectif. On a toute une partie de notre activité qui est aussi dans le cadre de politique publique, puisqu'on a réussi à se faire reconnaître comme un acteur sur le territoire PACA, et donc on est soutenu pour apporter de l'accompagnement à ces structures.
Et donc si on veut pouvoir bénéficier en fait de cet accompagnement, une association vient vous voir, elle adhère, comment ça se passe?
Oui,
c'est des forfaits, c'est des tarifs, c'est...
Alors elle adhère, il n'y a pas de lien direct entre l'adhésion et puis la raison qui motive l'association à venir nous voir. Elle adhère, elle adhère au projet de Béabalec, et parce qu'elle adhère au projet Béabalec, oui, elle peut bénéficier de services d'entraide, de services d'accompagnement direct par un salarié de Béabalec. Mais c'est basé sur une adhésion. C'est une manière de vraiment montrer aux gens qu'on n'est pas sur une logique de marché. On ne vient pas acheter un service, mais on vient bien s'impliquer dans un projet associatif autour de cette notion de droit et de soutien aux initiatives citoyennes, quoi.
D'ailleurs, donc, à partir du moment où on est adhérent, récemment, il y avait l'Assemblée Générale, je crois, qui a eu lieu.
Ouais.
Et quelles sont un petit peu justement les grandes lignes que vous allez travailler dans les prochaines années? Est-ce que vous avez déjà discuté de ça? Quels sont ce dont les associations ont le plus besoin aujourd'hui? Dans quel domaine?
Je pense que, comme toute structure, on est confronté à répondre à un besoin et en même temps à trouver les moyens de pérenniser notre action. Donc du coup, nous, ce qui nous reste pour nous un élément essentiel, c'est de travailler sur cette question de la citoyenneté juridique, avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer là-dessus, pour amener les gens sur cette question-là, qui est quand même très technique et qui fait peur. Et dans le même temps, de continuer à soutenir les initiatives qui se développent, donc de continuer. Alors là-dessus, pour nous, un des enjeux, c'est de développer la formation, parce qu'elle correspond vraiment à un besoin des acteurs et puis à les sources d'émancipation. Donc grâce à la formation, ils deviennent eux-mêmes en capacité de répondre à ces enjeux. Donc ça, c'est les deux grands volets. Après, nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir peut-être un jour essaimer le concept de Béabalec sur d'autres territoires et en faire quelque chose qui se diffuse ailleurs en France.
Merci beaucoup. Bruno,
ben en fait, on va laisser la parole à Mickey 3D, je crois. Allez, c'est parti.
Approche-toi, petit, écoute-moi, gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, il n'y avait rien. Au début, c'était bien. La nature avançait, il n'y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique, il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire.
Et nous sommes donc en présence de Philippe Oswald, qui est coordinateur de l'association La Plateforme et consultant spécialisé dans l'intelligence collective, la gouvernance participative, la qualité des liens. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça, Philippe ?
Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Eh bien, la plateforme, en fait, c'est un espace qui réunit des personnes qui sont impliquées dans ces aventures collectives, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine du social, dans tous ces domaines-là, qui trouvent là un espace de prise de recul, de partage d'expériences, enfin un espace justement où on peut se causer de tout ça, et qui, je dirais, un des constats qu'on partage tous les uns et les autres, c'est qu'on voit dans ces collectifs énormément d'énergie et de belles énergies, mais on voit aussi le pendant de ça, qui est que quand il y a collectif, eh ben, il y a différence de point de vue, différence de représentation, il y a des enjeux de place, il y a tout ça, et que tout ça se traduit aussi par des difficultés relationnelles et des blocages relationnels, et qu'on est à la fois témoin de toute cette belle énergie qu'il y a dans ces collectifs, mais aussi des gâchis ou des pertes d'énergie qui peuvent se jouer dans parfois des situations qui vont jusqu'à l'explosion ou les blocages, etc. Et donc... On a décidé, finalement, après réflexion, de vraiment centrer l'objet de la plateforme sur ça, sur cette question de la qualité des liens et des dynamiques relationnelles, en s'inspirant aussi de gens qui ont travaillé ça sur d'un point de vue beaucoup plus théorique. Je pense, par exemple, au mouvement de l'interactionnisme symbolique, qui sont des chercheurs qui ont démontré qu'on s'intéresse à ces questions de sens. Comment on produit du sens, comment on produit des valeurs, qui sont des questions qui sont très courantes dans l'économie sociale et solidaire. Ben, ces chercheurs ont démontré qu'en fait, cette production de sens se joue dans les interactions, dans la relation. C'est à cet endroit-là, finalement, qu'il y a production de sens et que c'est en se centrant sur ces qualités de relation qu'on peut contribuer à ces productions. Voilà.
D'accord.
Donc, toutes les méthodes d'intelligence collective, etc., sont des méthodes qui visent à travailler sur la qualité des relations pour optimiser tout ça.
Donc, la plateforme, en fait, accompagne ces associations le fonctionnement de ces interactions, dans l'organisation. Enfin, elle intervient à quel endroit, précisément, l'association ?
Elle propose plusieurs choses. Elle accompagne. Elle peut accompagner. C'est un espace où, quand une association ou un collectif éprouve des difficultés, donc elle peut venir là en faire part. Parce que ça aussi, c'est un point qui n'est pas simple, de faire part de ces difficultés relationnelles. C'est un petit peu une dimension qu'on a tendance à occulter. Donc d'avoir un espace où on peut le faire, c'est important. Et puis la plateforme organise aussi des occasions d'échange, de partage autour de ces enjeux-là. Elle propose aussi des espaces d'auto-formation, d'échange de formation sur des pratiques comme la médiation. Enfin, il existe des techniques, il existe des méthodes, pas toujours connues, où c'est parfois cher de se former à ça. Donc avoir un espace associatif où on puisse partager ces pratiques-là, c'est précieux. Je dirais que c'est une manière à nous, à la plateforme, de venir en appui à toutes ces dynamiques qui iront peut-être pas chercher des consultants ou qui iront peut-être pas chercher des prestations marchandes pour travailler ces dimensions-là.
Donc ce que tu nous dis, en fait, c'est que finalement, le point faible qu'a constaté la plateforme de toutes ces initiatives, toutes ces énergies, c'est finalement ce qui se passe dans les interactions à l'intérieur de ces groupements ou entre les groupements. Donc ça, c'est vraiment un point de fragilité de ces associations et de ces collectifs.
C'est à la fois le point fort et le point faible, c'est un peu le talon d'Achille, c'est leur force et leur faiblesse.
C'est le fameux PFH, là, putain de facteur humain, ou précieux facteur humain, en fait, comme disent certains.
C'est ça.
Alors, je disais en introduction que le territoire est riche d'associations, de collectifs très actifs. Et quand on parle de richesse, qu'est-ce qu'on entend par richesse, en fait, d'après toi, Philippe ?
Mais ça, la question de la richesse et tout le débat sur comment on mesure la richesse, débat, vaste débat entre la question du PIB, produit intérieur brut, où on ne mesure que les valeurs ajoutées des entreprises, etc., etc., avec toutes les anecdotes qu'on connaît sur le fait que plus il y a d'accidents, plus il y a de richesse, puisque ça, c'est aussi de la valeur ajoutée. Ou alors l'Angleterre qui réussit à gagner une place en PIB parce qu'elle introduit les produits de la prostitution et de la drogue. Donc voilà. C'est un peu le problème de qu'est-ce qu'on mesure et comment on le mesure. Les richesses immatérielles qui nous intéressent souvent sont très difficiles, voire impossibles à mesurer. Comment on mesure un sentiment de justice? Comment on mesure une qualité d'ambiance? Comment... C'est des choses qu'on ne sait pas mesurer. On n'a pas d'instrument, c'est pas monétaire. C'est pas... Donc la question de la richesse, et notamment des richesses qui relèvent du bien vivre ensemble, de se sentir bien dans une société, ne sont pas prises en compte, on va dire, par les dogmes économiques, mais en plus sont très compliquées à mesurer. Donc je dirais que tous les collectifs, toutes ces aventures, elles nous intéressent parce qu'elles produisent ces fameuses richesses immatérielles qu'on a du mal à mesurer.
Ok. Alors je vais te lire un passage du livre qui nous accompagne pendant cette première émission, donc La Voix. Et tu vas me dire tu vas me dire ce que t'en penses. Donc c'est Edgar Morin qui nous dit: il existe déjà sur tous les continents, en toutes les nations, des bouillonnements créatifs, une multitude d'initiatives locales dans le sens de la régénération économique ou sociale ou politique ou cognitive ou éducationnelle ou éthique ou existentielle. Mais tout ce qui devrait être relié est dispersé, séparé, compartimenté. Ces initiatives ne se connaissent pas les unes les autres. Nulle administration ne les dénombre. Nulle partie n'en prend connaissance, mais elles sont le vivier du futur. Donc c'est ce qu'on entendait d'ailleurs dans le petit passage enregistré pendant l'arrivée du Tour Alternatiba à Paris. Alors pourquoi est-ce que toutes ces initiatives ont du mal à se relier?
C'est une question difficile. Moi, j'aurais pas la réponse précise. J'ai des intuitions, peut-être. Il y a une image, moi, qui me parle beaucoup. Il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui portent sur le fonctionnement du cerveau et sur le fait qu'il y a trois zones dans le cerveau. Il y a le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le néocortex. Et ce cerveau reptilien qui nous vient de très, très, très loin, c'est aussi le cerveau de la survie, de la défense du territoire, qui nous habite aussi. C'est-à-dire qu'on est aussi des animaux qui sommes programmés à défendre notre territoire. Et que quand on travaille sur ces questions de collectif, d'identité, etc., il y a aussi ces enjeux-là qui se jouent. On a parfois tendance à les oublier, à penser qu'on est simplement des néocortex, alors qu'on est aussi des animaux qui sont animés par ces dimensions-là, et que ça se travaille, et que c'est pas naturel. Donc je pense qu'une des difficultés, c'est peut-être ça aussi, c'est la peur de l'autre, la peur de perdre sa place, la peur de qui nous habite et qui nous anime, malgré le fait qu'on puisse être sur des valeurs de coopération, etc. Et puis je pense qu'il y a plein d'autres raisons, les raisons de temps, c'est-à-dire que la nature a horreur du vide, c'est des initiatives qui s'investissent beaucoup, qui ont finalement peu d'espace pour se mettre en lien avec les autres, ou qui défendent peu ces espaces de vide. Enfin, voilà, je pense qu'il y a pas mal, en tout cas, il y aurait pas mal d'éclairages possibles à apporter sur une question aussi complexe que
celle-là. Bon, un vaste domaine de réflexion. Merci beaucoup, Philippe. Et je passe maintenant la parole à notre chroniqueuse, Emmanuelle Chouin.
Eh bien voilà, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des MOOC. Quel acronyme intrigant. En anglais, bien sûr. En France, nous n'avons pas encore pris parti sur le terme générique. Flotte ou CLOM. Mais qu'est-ce qu'un MOOC? Ces Massive Open Online Course sont des formations à distance, sans condition d'âge, de diplôme, de nationalité, de lieu de résidence. Un MOOC se moque des contraintes géographiques ou temporelles. Il est ouvert 24 heures sur 24. Le seul impératif, disposer d'une connexion Internet et d'un peu de temps. Les participants aux cours, enseignants et élèves, viennent du monde entier et travaillent et communiquent par Internet. Pour découvrir la diversité des sujets abordés par les MOOC, vous pouvez vous connecter à la plateforme FUN. Non, il ne s'agit pas de FUN Radio, nous sommes à Radio Grenouille, mais des initiales de France Université Numérique. envie de créer, de raconter, de partager en images, embarquez-vous sur le MOOC « Réaliser des vidéos professionnelles avec son smartphone » dès le 6 novembre pour 4 semaines de cours avec l'école des Gobelins. En lien avec une des prochaines thématiques de Métamorphose, les causes et les enjeux du changement climatique. Voilà une occasion de vous documenter sur les recherches en cours et d'être au top de l'information avant la COP21. Ce MOOC démarre le 13 octobre. Il est animé par des experts du GIEC. Un bien commun, la connaissance, partagée avec tous, de qualité et gratuite. Encore mieux, l'apprentissage des connaissances. On peut choisir de suivre un MOOC isolé derrière son ordinateur en visionnant les vidéos proposées chaque semaine et en validant ses connaissances par un quiz. C'est le parcours de base. Mais tous les MOOCs sont adossés à une plateforme. Elle permet aux apprenants de se retrouver et d'interagir sur les cours et les ressources pédagogiques. Cette plateforme crée du lien entre des personnes aux intérêts similaires mais issues d'univers différents. Elle dépasse très souvent les clivages sociaux et l'entre-soi. Des chiffres abyssaux. De 2000 à 40 000 apprenants du monde entier suivent le même cours que vous. Ce nombre favorise l'activité sur la plateforme et la richesse des échanges dont les motivations sont variées. Soif d'apprendre, envie de transmettre, d'accompagner, période d'inactivité. Le MOOC s'appuie sur les théories d'apprentissage collaboratif et sont des vecteurs d'innovation dans ce domaine. Certains MOOC proposent un parcours avancé avec des devoirs à remettre. Inconcevable pour l'enseignant de corriger plus de 1000 devoirs en une semaine. Un système d'évaluation par les pairs est mis en place. Vous devez vous-même corriger plusieurs devoirs selon une grille de notation. Vous êtes creusé les méninges, vous avez échangé vos doutes sur la plateforme. Vous voilà maintenant face à 4 devoirs remis par vos pairs à évaluer. Vous n'êtes pas prêt d'oublier la carte conceptuelle qu'il vous a fallu créer pour rendre lisible une problématique complexe. Et vous attendez avec impatience de découvrir le schéma de pensée des autres apprenants. C'était le devoir de la première semaine du MOOC Gestion de projet. Oui, les MOOC bousculent fortement le monde de l'enseignement par ses méthodes d'apprentissage collaboratif et d'acquisition des connaissances. Oui, les MOOC sont à la recherche de leur modèle économique. Affaire à suivre, les tentatives de monétisation de services dérivés, comme les SPOC. Oui, les MOOC font un tabac en Afrique, malgré les difficultés de connexion Internet et la mauvaise qualité de la bande passante. Ces pays où la jeunesse représente parfois plus de la moitié de la population, les universités sont surchargées, les grèves récurrentes, certains enseignements désuets. L'opportunité de suivre un MOOC certifiant représente pour certains étudiants africains une bouée de sauvetage, sans jeu de mots cyniques, pour élargir ses connaissances et se construire un réseau professionnel. À méditer, les enjeux sont de taille. Bienvenue dans cette nouvelle galaxie.
Merci beaucoup Emmanuel. Eh bien voilà, on arrive à la fin de notre émission, donc il est temps de remercier tous nos invités, de remercier aussi mes coéquipiers, super coéquipiers, et donc de vous présenter le thème de la prochaine émission où on parlera des communs, puisqu'on fera un petit focus sur la quinzaine pour la convergence des initiatives citoyennes du territoire, qui elle-même fera le focus sur les communs. Mais avant de terminer, avant de conclure, je ne vais pas me priver du plaisir de lire une dernière petite citation de notre cher Edgar Morin. Tout commence toujours par une initiative, une innovation, un nouveau message de caractère déviant, marginal, souvent invisible aux contemporains. Donc ouvrez bien les yeux!
Retrouvez tous nos programmes sur radiogrenouille.com.